David Copperfield, livre 2, chapitre 28, Absence. Oh oui, une nuit bien longue et bien ténébreuse, troublée par tant d'espérances déçues, tant de chers souvenirs, tant d'erreurs passées, tant de chagrins stériles, tant de regrets amers, qui venaient la hanter comme des spectres nocturnes. Je quittais l'Angleterre sans bien comprendre encore toute la force du coup que j'avais à supporter. Je quittais tous ceux qui m'étaient chers, et je m'en allais. Je croyais que j'en étais quitte, et que tout était fini comme cela. De même que, sur un champ de bataille, un soldat vient de recevoir une balle mortelle sans savoir seulement qu'il est blessé. De même, laissé seul avec mon cœur indiscipliné, je ne me doutais pas non plus de la profonde blessure contre laquelle il allait avoir à lutter. Je le compris enfin, mais non point tout d'un coup. Ce ne fut que petit à petit, et comme brin à brin. Le sentiment de désolation que j'emportais en m'éloignant ne fit que devenir plus vif et plus profond d'heure en heure. Ce n'était d'abord qu'un sentiment vague et pénible de chagrin et d'isolement, mais il se transforma par degrés imperceptibles en un regret sans espoir de tout ce que j'avais perdu, amour, amitié, intérêt, de tout ce que l'amour l'avait brisé dans mes mains, une première fois, une première affection, le rêve entier de ma vie. Que me restait-il désormais ? Un vaste désert qui s'étendait autour de moi sans interruption, presque sans horizon. Si ma douleur était égoïste, je ne m'en rendais pas compte. Je pleurais sur ma femme enfant, enlevée si jeune à la fleur de son avenir. Je pleurais sur celui qui aurait pu gagner l'amitié et l'admiration de tous, comme jadis il avait su gagner la mienne. Je pleurais sur le cœur brisé qui avait trouvé le repos dans la mer orageuse. Je pleurais sur les débris épars de cette vieille demeure où j'avais entendu souffler le vent du soir quand je n'étais encore qu'un enfant. Je ne voyais aucune issue à cet abîme de tristesse où j'étais tombée. J'errais de lieu en lieu, portant partout mon fardeau avec moi. J'en sentais tout le poids, je pliais sous le fait. Et je me disais dans mon cœur que jamais il ne pourrait être allégé. Dans ces moments de crise et de découragement, je croyais que j'allais mourir. Parfois, je me disais que je voulais mourir au moins près des miens, et je revenais sur mes pas pour être plus tôt avec eux. D'autres fois, je continuais mon chemin, j'allais de ville en ville, poursuivant je ne sais quoi devant moi et voulant laisser derrière moi je ne sais quoi non plus. Il me serait impossible de retracer une à une toutes les phases douloureuses que j'eus à traverser dans ma détresse. Il y a de ces rêves qu'on ne saurait décrire que d'une manière vague et imparfaite. Et quand je prends sur moi de me rappeler cette époque de ma vie, il me semble que c'est un de ces rêves-là qui me reviennent à l'esprit. Je revois en passant des villes inconnues, des palais, des cathédrales, des temples, des tableaux, des châteaux et des tombes, des rues fantastiques, tous les vieux monuments de l'histoire et de l'imagination. Mais non, je ne les revois pas, je les rêve, portant toujours partout mon fardeau pénible et ne reconnaissant qu'à peine les objets qui passent et disparaissent dans cette fantasmagorie de mon esprit. Ne rien voir, ne rien entendre, uniquement absorbé dans le sentiment de ma douleur, voilà la nuit qui tomba sur mon cœur indiscipliné. Mais sortons-en, comme je finis par en sortir, Dieu merci. Il est temps de secouer ce long et triste rêve et de quitter les ténèbres pour une nouvelle aurore. Pendant plusieurs mois, je voyageais ainsi, avec ce nuage obscur sur l'esprit. Des raisons mystérieuses semblaient m'empêcher de reprendre le chemin de mon pays natal et m'engager à poursuivre mon pèlerinage. Tantôt je prenais ma course de pays en pays, sans me reposer, sans m'arrêter nulle part. Tantôt je restais longtemps au même endroit, sans savoir pourquoi. Je n'avais ni bu, ni mobile. J'étais en Suisse. Je revenais d'Italie par un de ces grands passages à travers les Alpes où j'errais avec un guide dans les sentiers écartés des montagnes. Si ces solitudes majestueuses parlaient à mon cœur, je n'en savais en vérité rien. J'avais trouvé quelque chose de merveilleux et de sublime dans ces hauteurs prodigieuses, dans ces précipices horribles, dans ces torrents mugissants, dans ces chaos de neige et de glace, mais c'était tout ce que j'y avais vu. Un soir, je descendais avant le coucher du soleil au fond d'une vallée où je devais passer la nuit. À mesure que je suivais le sentier autour de la montagne, d'où je venais de voir l'astre du jour bien au-dessus de moi, je crus sentir le goût du beau et l'instinct d'un bonheur tranquille s'éveiller chez moi sous la douce influence de ce spectacle paisible et ranimer dans mon cœur une faible lueur de ces émotions depuis longtemps inconnues. Je me souviens que je m'arrêtais dans ma marche avec une espèce de chagrin dans l'âme qui ne ressemblait plus à l'accablement et au désespoir. Je me souviens que je fus tentée d'espérer qu'il n'était pas impossible qu'il vînt à s'opérer en moi quelque bienheureux changement. Je descendis dans la vallée au moment où le soleil du soir dorait les cimes couvertes de neige qui allaient le masquer comme d'un nuage éternel. La base de la montagne qui formait la gorge où se trouvait situé le petit village était d'une riche verdure. Au-dessus de cette joyeuse végétation croissaient de sombres forêts de sapins qui fendaient ces masses de neige comme un coin et soutenaient l'avalanche. Plus haut, on voyait des rochers grisâtres, des sentiers raboteux, des glaçons et de petites oasis de pâturage qui allaient se perdre dans la neige dont la cime des monts était couronnée. Ça et là, sur le revers de la montagne, quelques points sur la neige et chaque point était une maison. Tous ces chalets solitaires, écrasés par la grandeur sublime des cimes gigantesques qui les dominaient, paraissaient trop petits en comparaison pour des jouets d'enfants. Il en était de même du village groupé dans la vallée, avec son pont de bois jeté sur le ruisseau qui tombait en cascade sur les rochers brisés et courait à grand bruit au milieu des arbres. On entendait au loin, dans le calme du soir, une espèce de chant. C'étaient les voix des bergers, et en voyant un nuage éclatant des feux du soleil couchant, flotter à mi-côte sur le flanc de la montagne, je croyais presque entendre sortir de son sein les accents de cette musique sereine qui n'appartenait pas à la terre. Tout d'un coup, au milieu de cette grandeur imposante, la voix, la grande voix de la nature me parla. Docile à son influence secrète, je posais sur le gazon ma tête fatiguée. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré encore depuis la mort de Dora. J'avais trouvé quelques instants auparavant un paquet de lettres qui m'attendaient et j'étais sortie du village pour les lire pendant qu'on préparait mon souper. D'autres paquets s'étaient égarés et je n'en avais pas reçu depuis longtemps. Sauf une ligne ou deux pour dire que j'étais bien et que j'étais arrivée à cet endroit, je n'avais eu ni le courage ni la force d'écrire une seule lettre depuis mon départ. Le paquet était entre mes mains, je l'ouvris et je reconnus l'écriture d'Agnès. Elle était heureuse, comme elle nous l'avait dit, de se sentir utile. Elle réussissait dans ses efforts comme elle l'avait espéré. C'était tout ce qu'elle disait sur son propre compte. Le reste avait rapport à moi. Elle ne me donnait pas de conseils. Elle ne me parlait pas de mes devoirs. Elle me disait seulement, avec sa ferveur accoutumée, qu'elle avait confiance en moi. Elle savait, disait-elle, qu'avec mon caractère, je ne manquerais pas de tirer une leçon salutaire du chagrin même qui m'avait frappée. Elle savait que les épreuves et la douleur ne feraient qu'élever et fortifier mon âme. Elle était sûre que je donnerais à tous mes travaux un but plus noble et plus ferme après le malheur que j'avais eu à souffrir. Elle qui se réjouissait tant du nom que je m'étais déjà fait et qui attendait avec tant d'impatience les succès qui devaient l'illustrer encore, elle savait bien que je continuerais à travailler. Elle savait que dans mon cœur, comme dans tous les cœurs vraiment bons et élevés, l'affliction donne de la force et non de la faiblesse. De même que les souffrances de mon enfance avaient contribué à faire de moi ce que j'étais devenue, de même des malheurs plus grands, en aiguisant mon courage, me rendraient meilleur encore, pour que je puisse transmettre aux autres dans mes écrits l'enseignement que j'en avais reçu moi-même. Elle me remettait entre les mains de Dieu, de celui qui avait recueilli dans son repos mon innocent trésor. Elle me répétait qu'elle m'aimait toujours comme une sœur et que sa pensée me suivait partout, fière de ce que j'avais fait, mais infiniment plus fière encore de ce que j'étais destinée à faire un jour. Je serrais sa lettre sur mon cœur. Je pensais à ce que j'étais une heure auparavant, lorsque j'écoutais les voix qui expiraient dans le lointain, et en voyant les nuages vaporés du soir prendre une teinte plus sombre, toutes les couleurs nuancées de la vallée s'effacer, la neige dorée sur la cime des montagnes se confondre avec le ciel pâle de la nuit, je sentis la nuit de mon âme passer et s'évanouir avec ses ombres et ses ténèbres. Il n'y avait pas de nom pour l'amour que j'éprouvais pour elle, plus cher désormais à mon cœur qu'elle ne l'avait jamais été. Je relus bien des fois sa lettre. Je lui écrivis avant de me coucher. Je lui dis que j'avais eu grand besoin de son aide, que sans elle je ne serais pas, je n'aurais jamais été ce qu'elle croyait, mais qu'elle me donnait l'ambition de l'être et le courage de l'essayer. Je l'essayais enfin, 1, 2, 3. Je l'essayais en effet. Encore 3 mois, et il y aurait 1 an que j'avais été si douloureusement frappée. Je résolus de ne prendre aucune résolution avant l'expiration de ce terme, mais d'essayer seulement de répondre à l'estime d'Agnès. Je passais tout ce temps-là dans la petite vallée où j'étais et dans les environs. Les 3 mois écoulés, je résolus de rester encore quelque temps loin de mon pays, de m'établir pour le moment dans la Suisse, qui m'était devenue chère par le souvenir de cette soirée, de reprendre une plume, de me remettre au travail. Je me conformais humblement aux conseils d'Agnès. J'interrogeais la nature, qu'on n'interroge jamais en vain. Je ne repoussais plus loin de moi les affections humaines. Bientôt, j'eus presque autant d'amis dans la vallée que j'en avais jadis à Yarmouth, et quand je les quittais à l'automne pour aller à Genève, ou que je vins les retrouver au printemps, leurs regrets et leur accueil affectueux m'allaient au cœur, comme s'ils me les adressaient dans la langue de mon pays. Je travaillais ferme et dur. Je commençais de bonne heure et je finissais tard. J'écrivais une nouvelle dont je choisis le sujet en rapport avec mes peines récentes. Je l'envoyais à Traddles, qui s'entremit pour la publication d'une façon très avantageuse à mes intérêts. Et le bruit de ma réputation croissante fut porté jusqu'à moi par le flot de voyageurs que je rencontrais sur mon chemin. Après avoir pris un peu de repos et de distraction, je me remis à l'œuvre avec mon ardeur d'autrefois sur un nouveau sujet d'imagination qui me plaisait infiniment. À mesure que j'avançais dans l'accomplissement de cette tâche, je m'y attachais de plus en plus et je mettais toute mon énergie à y réussir. C'était mon 3e essai en ce genre. J'en avais écrit à peu près la moitié quand je songeais dans un intervalle de repos à retourner en Angleterre. Depuis longtemps, sans nuire à mon travail patient et à mes études incessantes, je m'étais habituée à des exercices robustes. Ma santé, gravement altérée lorsque j'avais quitté l'Angleterre, s'était entièrement rétablie. J'avais beaucoup vu, j'avais beaucoup voyagé, et j'espère que j'avais appris quelque chose dans mes voyages. J'ai raconté maintenant tout ce qu'il me paraissait utile de dire sur cette longue absence. Cependant, j'ai fait une réserve. Si je l'ai faite, ce n'est pas que juste l'intention de taire une seule de mes pensées, car je l'ai déjà dit, ce récit est ma mémoire écrite. J'ai voulu garder pour la fin ce secret enseveli au fond de mon âme. J'y arrive à présent. Je ne puis sonder assez avant ce secret de mon propre cœur pour pouvoir dire à quel moment je commençais à penser que j'aurais pu jadis faire d'Agnès l'objet de mes premières et de mes plus chères espérances. Je ne puis dire à quelle époque de mon chagrin j'en vins à songer que dans mon insouciante jeunesse, j'avais rejeté loin de moi le trésor de son amour. Peut-être avais-je recueilli quelques murmures de cette lointaine pensée, chaque fois que j'avais eu le malheur de sentir la perte ou le besoin de ce quelque chose qui ne devait jamais se réaliser et qui manquait à mon bonheur. Mais c'est une pensée que je n'avais voulu accueillir quand elle s'était présentée que comme un regret mêlé de reproches pour moi-même lorsque la mort de Dora me laissa triste et seule dans le monde. Si à cette époque je m'étais trouvée souvent près d'Agnès, peut-être dans ma faiblesse, eussé-je trahi ce sentiment intime. Ce fut là la crainte vague qui me poussa d'abord à rester loin de mon pays. Je n'aurais pu me résigner à perdre la plus petite part de son affection de sœur, et mon secret, une fois échappé, j'aurais mis entre nous deux une barrière jusqu'à là inconnue. Je ne pouvais pas oublier que le genre d'affection qu'elle avait maintenant pour moi était mon œuvre, que si jamais elle m'avait aimé d'un autre amour, et parfois je me disais que cela avait peut-être existé dans son cœur, je l'avais repoussée. Quand nous n'étions que des enfants, je m'étais habituée à le regarder comme une chimère. J'avais donné tout mon amour à une autre femme. Je n'avais pas fait ce que j'aurais pu faire. Et si Agnès était aujourd'hui pour moi ce qu'elle était, une sœur et non pas une amante, c'était moi qui l'avais voulu. Son noble cœur avait fait le reste. Lorsque je commençais à me remettre, à me connaître et à m'observer, je songeais qu'un jour peut-être, après une longue attente, je pourrais réparer les fautes du passé, que je pourrais avoir le bonheur indicible de l'épouser. Mais en s'écoulant, le temps emporta cette lointaine espérance. Si elle m'avait jamais aimée, elle ne devait m'en être que plus sacrée. N'avait-elle pas toutes mes confidences? Ne l'avais-je pas mise au courant de toutes mes faiblesses? Ne s'était-elle pas immolée jusqu'à devenir ma sœur et mon amie? Cruel triomphe sur elle-même. Si au contraire elle ne m'avait jamais aimée, pouvais-je croire qu'elle m'aimerait à présent? Je m'étais toujours sentie si faible en comparaison de sa persévérance et de son courage. Maintenant, je le sentais encore davantage. Quoi que j'eusse pu être pour elle, ou elle pour moi, si j'avais été autrefois plus digne d'elle, ce temps était passé. Je l'avais laissée fuir loin de moi. J'avais mérité de la perdre. J'ai souffri beaucoup dans cette lutte. Mon cœur était plein de tristesse et de remous. Et pourtant, je sentais que l'honneur et le devoir m'obligeaient à ne pas venir faire offrande à cette personne si chère de mes espérances évanouies, moi qui, par un caprice frivole, étais allée emporter l'hommage ailleurs quand elles étaient dans toute leur fraîcheur de jeunesse. Je ne cherchais pas à me cacher que je l'aimais, que je lui étais dévouée pour la vie, mais je me répétais qu'il était trop tard à présent pour rien changer à la nature de nos relations convenues. J'avais souvent réfléchi à ce que me disait Madora quand elle me parlait, à ces derniers moments, de ce qui nous serait arrivé dans notre ménage si nous avions eu de plus longs jours à passer ensemble. J'avais compris que bien souvent les choses qui ne nous arrivent pas ont sur nous autant d'effet en réalité que celles qui s'accomplissent. Cet avenir dont elle s'effrayait pour moi, c'était maintenant une réalité que le destin m'avait envoyée pour me punir, comme elle l'aurait fait tôt ou tard, même auprès d'elle, si la mort ne nous avait pas séparés auparavant. J'essayais de songer à tous les heureux effets qu'aurait pu exercer sur moi l'influence d'Agnès pour devenir plus courageux, moins égoïste, plus attentif, à veiller sur mes défauts et à corriger mes erreurs. Et c'est ainsi qu'à force de penser à ce qui aurait pu être, j'arrivais à la conviction sincère que cela ne serait jamais. Voilà quel était le sable mouvant de mes pensées. Voilà dans quel accès de perplexité et de doute je passais les 3 ans qui s'écoulèrent depuis mon départ jusqu'au jour où je repris le chemin de ma patrie. Oui, Il y avait 3 ans que le vaisseau chargé d'émigrants avait mis à la voile. Et c'était 3 ans après qu'au même endroit, à la même heure, au coucher du soleil, j'étais debout sur le pont du paquebot qui me ramenait en Angleterre, les yeux fixés sur l'onde aux teintes roses où j'avais vu réfléchir l'image de ce vaisseau. 3 ans, c'est bien long dans son ensemble, quoique ce soit bien court en détail. Et mon pays m'était bien cher, et Agnès aussi. Mais elle n'était pas à moi, jamais elle ne serait à moi. Cela aurait pu être autrefois, mais c'était passé.